for, my darling. I love you, and I always will, and I always will.
Je tente l'aventure. Oui, je tente l'aventure. Oui, je vais traverser la rue. Juste en face est sa demeure, sa silhouette en forme de cœur, sa chaloupe derrière les rideaux. J'ai les yeux comme des grelots.
Alors, le pyjama rayé, brosse à dents et oreiller. Pour pas oublier les chaussettes et les caleçons et les chaussons.
Oui, j'ai tant d'aventure. Je vais traverser la rue.
Je la regarde depuis des mois. Je suis ému quand je la vois. Je me tripote les phalanges sur l'autre trottoir. Il y a mon ange.
Je prends un plan de Paris, mon nounours et Bibeli, mon CAP de charcutier, et j'emmène le goûter, mon parapluie, mon agenda, désodorant pour sous les bras, le paillasson devant la porte. Oulala, tout ce qu'il faut que je porte.
Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache à ton lit, tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra ton angoisse. Disparaît ce qui se passe. Voilà la traveneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça le médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça le médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça le médecine, je peux faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission hebdomadaire, critique de la psychiatrie. Bonjour. Et bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Du groupe Libertaire d'Ivry.
Absolument.
Et nous allons poursuivre une discussion aujourd'hui à propos... on va explorer encore les années 70. C'est plus Sexpol. Donc c'est.
T'es pas bien réveillé encore.
Oui. Donc oui. Voilà.
On a fait un bond dans le temps.
Une brochure intitulée "Elle doit être folle".
Ça date de 2016. Ça avait été. Tu me dis que le site zinzinzine.net n'existe plus.
Et
donc, je crois qu'on peut trouver cette brochure sur Info Kiosque.
Oui.
Voilà, si vous cherchez Info Kiosque sur un moteur de recherche. Et il y a beaucoup de brochures sur tous les thèmes. Donc celui-là s'appelle « Elle doit être folle » par Jennifer L. Reimer. Donc en anglais, il a été publié en 2009. Donc sinon, c'est assez récent. Et donc le discours psychiatrique, les troubles de la personnalité et la régulation des femmes subversives.
Voilà. Auparavant, une petite annonce.
Oui.
Alors, c'est dimanche, pas celui qui vient, mais dimanche 20 septembre, à 16h, il y aura la projection-discussion à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry.
Oui.
avec la projection donc du film Aguirre, La colère de Dieu, un film de Werner Herzog.
Par contre, qui date des années 70, oui. Celui-là. Ouais. Et donc
Pérou, 1560, une troupe de conquistadors part à la recherche de l'Eldorado. Un lieutenant, Aguirre, manœuvre pour prendre la tête de l'expédition. La descente du fleuve se change rapidement en descente aux enfers. Je peux lire tout le...
Oui,
le,
oui, hein, il n'est pas très long.
Donc,
c'est parce qu'en plus, il y a un cousinage avec, très clair avec, le, avec l'idée de la résistance, enfin, disons, de la, de, des diagnostics de folie, on peut dire.
Oui.
Parce que juste, je dis ça avant, c'est pas dans l'annonce, mais ce film a été énormément commenté, même par des vidéos, beaucoup de critiques et tout. Il a inspiré beaucoup, beaucoup de critiques. Et celle que, qui revient le plus souvent, c'est que c'est l'ambition qui rend fou. Or, personnellement, je suis absolument pas d'accord avec ce diagnostic. Et c'est un petit peu ce que j'ai exprimé en rédigeant l'annonce, si tu...
Que nous allons lire tout de suite. Le pouvoir est maudit, c'est pour ça que je suis anarchiste. C'est une citation de Louise Michel, en exergue. Projection de Aguirre, La colère de Dieu, de Werner Herzog, avec Klaus Kinski, 1972, 1h30, version française. Pérou, 1560, une troupe de conquistadors part à la recherche de l'Eldorado. Un des lieutenants, Lope de Aguirre, manœuvre habilement pour prendre la tête de l'expédition. La descente du fleuve se change rapidement en descendant aux enfers. Le chef-d'œuvre de Werner Herzog...
Il n'y a pas que moi, hein. il est quand même très très souvent considéré comme un chef-d'œuvre, ce film.
Pose de nombreuses questions essentielles à propos de toutes les formes de pouvoir. Aguirre est indéniablement une ordure assoiffée de pouvoir, mais est-il vraiment plus cruel et plus, entre guillemets, fou que les autres conquistadors? Est-ce qu'on ne juge pas Aguirre surtout sur les apparences? Klaus Kinski, grimaçant, hurlant, gesticulant, est-il réellement plus fou, entre guillemets, et plus cruel que, par exemple, le moine qui constate mollement que les Indiens meurent les uns après les autres et collaborent sans broncher à toute la violence. Le film évoque également la situation des femmes, en particulier de la fille d'Aguirre, totalement passive et soumise, embarquée de force dans cette aventure mortifère.
Voilà.
À l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, dimanche 20 septembre 2026, à partir de 16h, entrée libre.
Accueil... La librairie Publico.
À la librairie Publico.
145 rue Amelot, métro, Oberkampf, République, Fille du Calvaire. Voilà. L'accueil des 15h, d'ailleurs.
Oui.
Donc, peut-être avant que tu commences à lire les passages comme ça de la brochure, on ne peut pas lire tout, elle est quand même un peu trop longue. Hein.
Oui.
Mais en plus, comme c'est une traduction, hein, on est tombé un peu d'accord, il y a des passages où on ne sait pas si c'est que c'est eux qui ont écrit n'importe comment, ou si c'est plutôt la faute à une traduction, on va dire, un peu approximative. Et donc, de toute façon, c'est un peu trop long, donc il y a des passages qui m'ont semblé plus représentatifs que d'autres. Mais je dirais que le thème, en tout cas, est vraiment très intéressant, de voir tout ce qu'il peut y avoir de spécifique dans les diagnostics qu'on peut faire sur les femmes. Le problème le plus connu, enfin, sur l'idée de diagnostiquer, est le fait d'être taxé d'hystérique aussitôt qu'on se met en colère, par exemple, ou qu'on la ramène un petit peu trop. Et je dois dire, y compris dans les milieux libertaires. Il y a également beaucoup d'accusations d'être manipulatrice. Enfin, si jamais t'es du genre à sortir un peu aussi de l'ombre, quoi. Et je dois dire que, faut le dire, il y a très très, il y a pas beaucoup de femmes militantes. Enfin, y compris dans les milieux libertaires, c'est assez. Et quand il y en a, il y en a pas beaucoup qui vont sur le, enfin, qui vont par exemple s'exprimer à des tribunes ou s'exprimer par écrit. Enfin, tu vois, des choses comme ça, c'est. T'es quand même pas censé tellement la ramener. Les femmes sont beaucoup bien accueillies si elles sont. Il y a eu même des femmes qui se sont un peu manifesté, enfin carrément énervé d'ailleurs sur le truc. Par exemple, je pense au squat le transfo, où il y a carrément les féministes, enfin les femmes même d'ailleurs tout court, avaient fait une campagne d'affiches pour dénoncer la façon dont était, tu t'en rappelles peut-être, puisque toi aussi t'es un rat de squat, tu te rappelles de cette histoire de la campagne d'affiches des féministes, et en réponse sur des sites militants comme par exemple Indie Media Nantes, les hommes avaient dit ouais mais c'est des féminazis, on peut pas rien leur dire, tout de suite elles voient ça comme du sexisme, enfin il y avait vraiment une levée de bouclier par rapport à ça, parce que les femmes se plaignaient d'être considérées d'une part en fonction de leur baisabilité, et de est-ce qu'elle se laissait baiser, on va dire. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique aux milieux militants, mais par quoi les milieux militants ne sont pas épargnés. Voir le site Combien de fois 4 ans, que vous pouvez trouver aussi, je crois, sur Info Kiosque, et qui répertorie tous les cas d'abus sexuels dans les milieux, on va dire, squat, antifa et libertaire. Et c'est quelque chose qui est, comme ils disent, c'est pas pire qu'ailleurs, mais ça fout les boules qu'on puisse trouver ça aussi. Et c'est quelque chose qui... beaucoup de questions autour des diagnostics tout sur les femmes tournent beaucoup autour de la baisse. Hein, c'est con, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'une femme quand tu la dragues, elle t'envoie bouler, c'est qu'elle est, coincée, c'est son éducation bourgeoise. Il faudrait... qu'elle se libère, peut-être pourquoi pas, effectivement, en faisant une thérapie. Enfin, en tout cas, elle a un problème d'ordre mental, quoi, hein, parce que sinon, bien entendu, elle pourrait être enchantée à l'idée de se faire sauter par n'importe qui, évidemment. Ce côté comme ça, je dirais que ce qui est exprimé aussi dans la brochure, c'est le côté il faut que à quoi doivent se plier les femmes, c'est une double contrainte, c'est-à-dire des injonctions complètement contradictoires. Il faut que ce soit ni trop ni pas assez. Et en même temps, bah, par exemple, il faut qu'elle se laisse faire. Je dirais que ce qui représente bien cet état d'esprit des hommes quand ils font un diagnostic, c'est la chanson de Georges Brassens, 95%. Mmh. Parce que tout y est. Premièrement, que les hommes, c'est logique, eux, ils ont des passions brutales, mais la femme, elle, la femme, tu vois, c'est que t'as un diagnostic de groupe, la femme, avec un gros la, quoi, avec une femme, avec un... Elle est avant tout sentimentale. D'ailleurs, il exprime aussi que les trucs qui la font kiffer, c'est les crimes que pour ses bons yeux on commet. On voit le diagnostic de manipulatrice qui aime bien faire pousser les hommes au crime, quoi, pour eux, parce que c'est ça qui lui plaît. Et un autre diagnostic dans la chanson, c'est sauf, donc il y a 5% qui restent qui aiment bien la baise, si on comprend bien. Et ben les 5% qui restent, c'est, il le dit clairement, sauf quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre donc une maladie de nymphomanie chronique, une maladie, et c'est elle qui fait passer à ses admirateurs de fichu quart d'heure, là c'est trop. Donc c'est l'illustration de ce qui est dit un peu dans la brochure sur les injonctions qui sont faites aux femmes d'être en même temps, il faut qu'elles soient quand même un peu branchées baisse pour accepter. D'ailleurs, dans la chanson de Brassens, il leur suggère pas de dire « chérie, pas ce soir, j'ai la migraine » ou même de se dire « bon, bah, puisque j'aime pas ça, je vais pas le faire du tout, jamais. Enfin, » non, finalement, ça me plaît pas, si ça lui plaît pas. Non, il faut qu'il lui suggère de chanter dans sa tête pendant que elle se laisse baiser, quoi. C'est ça la suggestion de Georges Brassens. Non pas essayer de se soustraire au devoir conjugal, on va dire, mais d'arriver à s'y faire et de ricaner dans sa barbe, et ça sera super. Bon, voilà. Mais on voit bien aussi que du côté des hommes, leur problématique tourne beaucoup autour de ça. De la sexualité des femmes qui, si elle est un peu trop prenante, leur fait peur, on va dire. Est-ce qu'ils vont réussir à assurer est-ce qu'elle va pas coucher avec le premier venu, enfin, elle est trompée, enfin, tu vois, bon. Et puis, si elle aime pas assez et qu'elle se laisse pas faire, Bah là, c'est quand même, ça devient encore un autre problème.
Parce elle comment... est frigide.
Oui, puis et puis, bah, du coup, elle risque de pas, de pas, bah, de, ils vont pas pouvoir tirer leur camp, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Tu vois. Donc ça tourne tout bêtement autour de ça. Hein. Faut pas chercher. Enfin, pour moi, ça tourne beaucoup autour de cette problématique-là. Et donc, la sexualité des femmes, ça a toujours été un souci pour toutes ces raisons, quoi, je pense. Voilà. D'accord. Donc
bon, bah avant de lire
une petite musique peut-être.
Voilà, on va écouter Georges Brassens 95 fois. Non, en fait non. C'était une blague. donc ça va être de Slits.
Donc la brochure, elle doit être folle. Voilà.
Sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et dans l'émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Je ne sais pas si mon micro marche bien. J'ai un retour. Ah si, ça a l'air d'aller. Et elle doit être folle. Par Jennifer L. Reimer. Je lis l'introduction.
Absolument.
Les femmes déviantes ont été étiquetées et soumises à des méthodes coercitives de « correction » entre guillemets, à travers toute l'histoire. La violation des rôles socialement prescrits et la transgression des normes concernant le comportement culturellement entre guillemets, acceptable pour une femme garantit d'être soumise aux mécanismes régulateurs des plus puissantes institutions de la société. C'est des phrases un peu compliquées, hein, mais à la radio,
c'est pire.
À la radio, ça passe.
Oui.
En utilisant la théorie sociologique, la généalogie et l'analyse critique du discours, cet essai examinera le pouvoir omniprésent de la psychiatrie et plus largement de l'institution psy dans la culture occidentale actuelle, en retraçant ses remarquables succès dans la régulation des femmes, dans la suppression de la possibilité de l'organisation des femmes et de l'action révolutionnaire, et dans la perpétuation des mêmes restrictions sur l'expérience du monde d'une femme que celle imposée tout au long de l'histoire. La recherche féministe sur la psychiatrie, Bloom et Strakusi 2004, Busfield et Campling 1996, Chamberlain 1975, Schoen et Menzies 1990, Martin 1982, Plechner 2000, Smith 1975. Alors j'ai oublié quel était le sujet. Ah oui, la recherche féministe sur la psychiatrie, donc, utilise une critique similaire de la validité des diagnostics psychiatriques à celle initialement postulée dans les premières études critiques de la psychiatrie, ainsi que dans les nombreuses branches de l'antipsychiatrie, de la Mad Pride et des groupes et des mouvements pour les droits des personnes. Ces individus et organisations variées conviennent généralement que le savoir et l'expérience de la folie surviennent non pas d'une anormalité médicale individuelle, mais des structures culturelles, économiques et de pouvoir de la société dans laquelle des comportements « fous » entre guillemets se produisent. Alors, je ne vais pas citer les références. Parce que...
Par rapport à ça, en effet, d'ailleurs, ce sont les ethnopsychiatres qui parlent de modèles d'inconduite socialement proposés. C'est-à-dire qu'en réalité, il est très rare d'avoir des comportements qui sont complètement détachés de la société dont on fait partie, quelle que soit l'époque ou le lieu. C'est très rare. Enfin, oui. Les gens originaux, finalement... C'est pas très courant. Enfin, je veux dire, il suffit pas d'aller mal, par exemple, pour devenir Antonin Artaud. C'est un exemple comme ça. Oui. Ou de se bourrer la gueule pour devenir Bukowski. Tu vois ce que je veux dire? Des gens, en réalité, qui ont des caractéristiques, de toute façon, même dans un cas comme ça, tu vas pas être déviant, être considéré comme déviant de la même manière, quel que soit le lieu et l'époque. Et en effet, il fut un temps où quand une femme se comportait bizarrement, du point de vue de son entourage, on disait soit qu'elle était possédée, soit que c'était une sorcière. Ils en parlent pas, mais moi je fais ce distinguo parce que la réaction était pas la même. Je veux dire que l'idée de la psychiatrie, c'est quand même l'idée qu'on peut modifier la personnalité de quelqu'un, mais complètement, comme un exorcisme en réalité. C'est-à-dire que tu retires un élément perturbateur. Beaucoup de gens, par exemple, s'imaginent que quand tu es, par exemple, considéré comme fou, quand tu as un comportement bizarre, c'est que soit tu as quelque chose, enfin, faudrait te faire une lobotomie ou te donner un médicament qui t'a quelque chose qui te perturbe et qu'il faudrait enlever comme on pouvait exorciser quelqu'un. C'est pas du tout pour moi la même chose. Enfin, c'est pas seulement pour moi, si on observe un petit peu la description d'une sorcière, par exemple, une sorcière et quelqu'un de possédé, c'est pas du tout la même chose. Une sorcière, on n'essayait pas de la réformer, on la torturait et puis on la butait. Et puis c'est tout. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'on devait juste éliminer. La notion de soin, pour moi, elle s'apparente plus elle s'apparente complètement même à la notion d'exorcisme. C'est-à-dire que c'était les gens qu'on imaginait, puis effectivement les femmes qui étaient possédées par le diable, et que c'était pour ça que, par exemple, elles avaient une sexualité un petit peu trop, enfin considérée comme un peu pas conforme à ce qu'il faudrait, ou qu'elles avaient un comportement un peu trop extraverti, ou des choses comme ça, eh bien, on les exorcisait. Ça, c'est pas la même réaction de la société que par rapport à une sorcière qui est, elle, absolument volontaire. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si tu vois la différence entre une femme possédée et une femme sorcière.
Bah, d'après ce que tu me dis, oui, ça me paraît clair.
Oui, voilà. Donc, l'idée aussi, bah, à partir du moment où il y a eu l'industrie du médicament, il est évident qu'on a fait toute une série d'émissions autour des inventeurs de maladies, oui. Denis. Si tu peux rappeler un peu ce que c'était. Donc,
oui, alors je ne me souviens plus de l'autre.
Non, mais enfin, tu vois un peu l'idée générale, tu peux dire, grosso modo.
Donc, oui, ben c'était. Disons que les prescripteurs n'étaient pas libres déjà de liens d'intérêt avec les laboratoires. Mmh. Et enfin, c'est toujours actuellement le cas, d'ailleurs.
On pouvait faire des diagnostics pour vendre
des médicaments.
Pour vendre des médicaments, t'as le médicament et après tu trouves la maladie qui va bien.
Qui va avec. En gros.
Donc oui, voilà quoi. Donc si tu veux, c'est et ça me paraît aussi important quand même de dire que je veux bien qu'il y ait une continuité, mais enfin malgré tout, on n'est plus au Moyen-Âge. Et quand même, l'un dans l'autre, dans nos contrées en tout cas, une femme qui est déviante, on la bute pas, quand même. Enfin, pas directement. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose, c'était pire.
Oui,
on peut pas dire que c'est pareil, quand même.
C'est un exercice de conversion, en fait. Elle doit se convertir à la norme.
En fait, à la norme. Mais je te dis, c'est plus comme l'idée de l'exorcisme. Les exorcismes pouvaient être musclés, mais l'idée générale, c'était qu'après ça, tu deviens normal. Enfin,
oui.
On t'enlève on a enlevé le mal, et que quelque part, l'idée de la psychiatrie moderne s'apparente pas mal à l'idée d'un exorcisme. Enfin, pour moi, c'est un peu ça.
Oui.
En revanche, l'idée des femmes, puisqu'on parle des femmes subversives, une femme subversive, c'est pas comme une femme qui est, par exemple, qui a effectivement, qui souffre de nymphomanie chronique, pour citer Georges Brassens. C'est pas une maladie qu'il faudrait soigner. Il envisage les nymphomanes comme des malades qui, peut-être, si on... Je sais pas, on les envoie à la douche, peut-être qui sait, à l'électrochoc,
oui,
à toutes sortes de médicaments, enfin, bon.
Ouais, ce que
serait, redeviendrait normal, enfin.
Un constat qu'on peut faire, en fait, aussi, enfin, sous un autre angle, c'est que le désir masculin est bon, glorifié, enfin, est mis en... comment dire, voilà, flatté presque même, alors que le désir féminin est redouté et pas du tout écouté en plus dans notre société.
Et puis même, il faut qu'il soit contrôlé. C'est-à-dire que sinon, elle va faire passer des fichus quart d'heure à ses admirateurs. Elle va pas savoir s'arrêter.
Oui, mais c'est un peu une négation, finalement, du désir féminin.
Oui, voilà. Et d'une manière générale, puisqu'il parle des femmes subversives, une femme qui sort de son rôle, qui est d'être effectivement annexée aux hommes et de leur servir de faire-valoir, à la rigueur, tu vois, c'est quelque chose qui doit être vraiment éradiqué. Et quand tu vas très loin, tu as Proudhon, qui était considéré comme un des fondateurs de l'anarchisme.
Oui, c'est un peu le cas, d'ailleurs.
Sa préconisation pour des femmes qui la ramènent, c'est de les tuer. Il le dit carrément. Il dit faut les tuer, quoi. Carrément. Non, mais vraiment, dans ces termes-là, puis pas pour rire.
Hein. Oui, bien sûr.
Voilà. Enfin, bon, continue.
Eh bien, je continue l'introduction. Donc, on n'en est qu'à l'introduction et on a dit déjà pas mal de choses.
Oui, mais disons que c'est un petit peu, de toute façon, c'est un petit peu pour poser un peu le décor, quoi.
De la brochure, elle doit être folle. Le discours psychiatrique, les troubles de la personnalité, entre guillemets, et la régulation des femmes subversives. Thomas Sass, une des plus vives figures dans la bataille pour contester le monopole des disciplines psy sur la définition de la normalité, entre guillemets, ou de l'anormalité, entre guillemets aussi, humaine, a été le premier chercheur à faire un parallèle entre le phénomène ancien de sorcellerie et l'étiquetage des femmes en tant que sorcières, est le phénomène plus récent de diagnostic des femmes comme « malades mentales », entre guillemets, considérant que les deux concepts ont fonctionné pour définir la conduite féminine acceptable et pour fournir des punitions pour la déviance qui apparaissent maintenant souvent sous la forme de traitement médical. SAS, 1974. De nombreuses autres chercheuses et chercheurs offrent des analyses différentes du même parallèle. Chodoff, 1982, Foucault, 1965, Turner et Edgley, 1983. Depuis que le sujet a été rendu public pour la première fois, les chercheurs et les chercheuses féministes ont examiné les conditions et les processus qui permettent aux femmes d'être rendues déviantes et régulées au nom de la santé mentale, entre guillemets. Bien que le consensus social concernant la légitimité de ce concept soit tellement omniprésent que le simple fait de soulever des questions sur son sens, son utilisation ou l'industrie qui en tire du pouvoir pourrait conduire le ou la coupable à être diagnostiqué comme folle ou fou. Chamberlain, bon, je cite pas les références à chaque fois. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, une publication de l'Association américaine de psychiatrie, AAP, sert de bible psychiatrique, entre guillemets, voir Cutchins et Kirk, 1998, pour la maladie mentale, et définit les critères d'un nombre toujours plus grand de troubles. Le DSM-1 faisait 130 pages de long, énumérant 106 troubles. Maintenant, dans sa quatrième édition, le DSM-4, alors oui, c'est un texte, donc je fais une parenthèse, qui a été quand même édité...
En 2009, je crois bien.
Voilà, en 2009. Et était en train d'être rédigé le DSM-5, le suivant.
Juste une question, puisque tu fais souvent référence à ce DSM, c'est un peu la référence pour ceux qui critiquent la psychiatrie. Donc on a ajouté des troubles,
et ceux qui
mais est-ce qu'on en a enlevé par rapport aux versions précédentes?
On avait
par exemple l'homosexualité, est-ce qu'elle figure
ça
toujours?
Oui, voilà, c'est que le DSM, ça devait être le numéro 3 ou... était encore maintenant encore la sexualité comme maladie mentale.
Et l'homosexualité.
L'homosexualité.
Et plus maintenant encore.
Et plus dans le DSM-4. Quoi.
D'accord.
Mais il y a toujours des propositions de définition par rapport à des concepts comme dysphorie de genre ou des choses.
C'est quoi dysphorie de genre?
C'est pour les gens qui veulent changer de genre.
Ceux qui acceptent pas leur les caractéristiques.
Ou alors qui affirment qu'ils sont filles quand ils sont garçons, enfin que leurs parents pensent qu'ils sont garçons, des choses comme ça.
Ou un homme qui veut par exemple se maquiller et se mettre des robes.
Oui, tout à fait. Alors, donc, comparatif, DSM-1, 130 pages de long, 106 troubles. Dans sa quatrième édition, DSM-4 fait 886 pages de long et énumère 297 troubles, près du triple de sa première édition. Alors, page de long, c'est une mauvaise traduction, hein, je pense. C'est le manuel standard utilisé par tous les psychiatres et autres cliniciens comme outil de diagnostic des patients et patientes. Pas seulement utile pour les critiques de la psychiatrie. La validité de toute l'épidémiologie du DSM a été contestée. Mais la catégorie spécifique qui va être discutée dans cet essai, les troubles de la personnalité, TP, est celle qui comporte le moins de ressemblance avec les maladies physiques, qui utilisent un langage particulièrement vague et hautement interprétable, et révèle avec transparence sa possible utilisation comme outil pour la pathologisation, l'oppression et le contrôle social des femmes.
Juste une parenthèse par rapport au fait d'essayer de faire une comparaison avec les troubles physiques. Eh ben oui, forcément. Tu sais que tu connais mon point de vue sur les psys, donc je pense que dans le meilleur de cas, c'est des gens bienveillants, sympas et qui vont t'écouter gentiment, ce qui est toujours bien agréable. Mais ce n'est pas du tout une science. Or, justement, pour essayer de les légitimer, on fait une comparaison avec... enfin, je ne parle pas des psychiatres qui te fourguent des médicaments pour que tu te changes en courge. Non, Paul, je veux dire, c'est effectivement, ça relève d'une compétence de savoir quel médicament va t'endormir, lequel va te faire la roue. Enfin, bon, tu vois, c'est un truc médical. En effet, après, il y a les effets secondaires, c'est encore une autre question. Mais en ce qui concerne tout ce qui est psychologique, justement, mais ce n'est pas du tout une science. Et on fait tout pour te le faire croire, c'est-à-dire expert psychiatrique, par exemple, il va te regarder puis il va te dire que t'as tel et tel trouble, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Je veux dire, si un médecin te diagnostiquait une sinusite quand t'as une appendicite, il se ferait quand même vite un petit peu taper sur les doigts, dans le genre, non mais là, faut que tu retournes un peu à l'école, quoi, tu vois. Tandis qu'un psy, il peut dire n'importe quoi. C'est tout ce qui lui passe par la tête. Et en effet, dire que une femme qui a des troubles parce que on avait lu un coup après l'affaire Bertrand Cantat, il y avait un psy dans le Nouvel Observateur qui faisait plus que sous-entendre que Marie Trintignant, elle allait pas fort de la tête parce qu'elle avait eu 4 enfants de 4 pères différents. Enfin bon, et donc certainement, et puis que lui était comme un petit garçon devant une ogresse. Enfin, il peut dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les médecins, en effet, ils sont pas censés dire comme ça tout ce qui leur passe par la tête. Et alors que les psys, oui. Donc, en effet, on peut te diagnostiquer absolument tout ce qu'on veut, puisque c'est complètement invérifiable. C'est pas une science. C'est comme ça. Oui, voilà. Ah bah moi j'ai l'impression et tout de ça. Et on devrait pas être dupe de ça. T'es pas un expert quand tu dis quelle impression tu as sur quelqu'un, quoi. Mais si, bon, enfin voilà. Ouais.
Alors cet essai se focalisera sur les 3 troubles de la personnalité qui sont le plus exclusivement diagnostiqués chez les femmes. Le trouble de la personnalité histrionique.
Ça veut dire qu'il aime bien se mettre en scène. Par exemple, moi, je pourrais être facilement, comme je suis du genre assez matuvu, on va dire, on pourrait dire que j'ai une personnalité histrionique. Voilà. Parce que j'aime bien me faire remarquer. Voilà.
Deuxième, le trouble de la personnalité dépendante. Et troisième, le trouble de la personnalité borderline. Les critères pour ces troubles, entre guillemets, énumérés dans le DSM, décrivent des comportements genrés stéréotypés, des caricatures de rôles féminins dans la société moderne contemporaine, ainsi que des réponses courantes à l'oppression. Alors, on passe au concept théorique. Donc, c'est au sujet de... ça démarre avec la socialisation des enfants. Le titre, c'est concept théorique, la théorie féministe, les stéréotypes genrés et la double contrainte. L'on apprend aux jeunes filles à être dépendantes et passives. Le renforcement des comportements genrés est puissant. Il s'accomplit à travers un traitement différentiel et un système complexe de récompenses et de punitions formelles et informelles, ancré dans presque toutes les interactions, dans les interactions sociales. Les traits assignés aux filles et aux femmes sont ceux que la société dévalue, donc des femmes sont par conséquent dévaluées, ce qui conduit à un traitement différentiel et des expériences négatives, y compris le fait d'avoir une plus grande chance d'être diagnostiqué comme souffrant d'un trouble psychiatrique, en particulier lorsque ces traits sont exagérés. La caractérisation genrée Gender
juste une parenthèse sur l'idée des traits exagérés, parce que on a fait plusieurs émissions où on évoquait l'idée de la normalité, en particulier Janoff qui expliquait faut que ce soit faut être modéré justement. Tu vois, faut pas en effet même pour un homme par exemple, d'ailleurs une femme qui se comporterait comme Kinski dans Aguirre, alors là ça dit même pas, mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut malgré tout passer pour plutôt positif qu'un homme ait une forte personnalité, on va dire, et que même qu'il soit non pas histrionique, mais quelqu'un qui a une forte personnalité, qui attire bien l'attention, qui soit créatif, qui soit même un chef et tout dans l'âme, qui soit charismatique et tout. Et l'équivalent pour une femme, c'est ça. Par contre, c'est, je pense que en effet, c'est complètement opposé à ce qu'on doit attendre d'une petite fille aussi, et d'une les petits garçons qui sont qui essayent d'attirer l'attention, ou qui sont par exemple un peu le coq de la basse-cour dans la cour de récré, tu vois, c'est plutôt bien vu en réalité, mais pour une fille c'est pas beau chez une fille. C'est pas beau de dire des gros mots, c'est pas beau de se bagarrer, c'est pas beau de parler trop fort. Enfin, tu vois, je pense quand même que c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Je te parlais des milieux militants. À la tribune, tu verras rarement une femme. Ceux qui sont censés faire les leaders, c'est plutôt quand même c'est plutôt des hommes. Ouais.
La caractérisation genrée, gender type, typing en anglais, est flagrante dans les TP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire TP ?
Les troubles de la personnalité.
Ah oui, c'est ça. Merci. Même sans examiner leurs critères spécifiques. Les 10 troubles sont regroupés dans 3 groupes qui, à première vue, révèlent des stéréotypes communément répandus sur les hommes et les femmes. Le groupe A, incluant uniquement des troubles diagnostiqués plus fréquemment chez les hommes, troubles de la personnalité paranoïaque, troubles de la personnalité schizotypique et le trouble de la personnalité schizoïde, est défini sous la rubrique comportement bizarre ou excentrique, tandis que le groupe B, contenant le TPB et le TPH, trouble de la personnalité...
B, je crois que c'est borderline.
Ah oui, borderline ou histrionique. Et donc, voilà. Utilise une rubrique nommée comportement dramatique, émotionnel ou erratique. Et le groupe C, qui comprend le trouble de la personnalité
je me rappelle plus ce que c'est.
Est rangé dans les comportements anxieux et craintifs. Le groupe uniquement constitué de troubles plus fréquemment attribués à des hommes manque de toute référence à l'émotivité, alors que les deux autres se focalisent sur les émotions, les étiquetant comme problématiques. Tandis que...
cette phrase-là, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce qu'ils veulent dire. Parce que, par exemple, puisqu'on parlait d'Aguirre, je pense que les gens qui diagnostiquent Aguirre comme étant fou, ce serait un peu le trouble de la personnalité histrionique d'une part, et puis le paranoïaque, tu vois. Et mais en réalité, c'est de toute manière tous ces trucs là il y a une si énorme part d'arbitraire dans ce diagnostic, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, même si après c'est un peu expliqué comment statistiquement on diagnostiquera plus facilement une femme comme ayant un trouble de la personnalité si elle la ramène, par exemple, tu vois. Mais en même temps, même pour un homme, comme Aguirre, tu dis c'est laissé au bon vouloir du psy, en réalité.
Oui. Alors là, je pense peut-être qu'il fait toujours référence au DSM, c'est-à-dire que là, oui. Bon, donc le TPD est le trouble de la personnalité dépendante.
Indépendante.
Voilà, et donc attribué souvent aux femmes, ainsi que le TPH histrionique. Voilà, et borderline, voilà. Et alors que le groupe A, qui est plus chez les hommes, la liste des troubles, en fait, sont moins reliés à l'émotion que les maladies attribuées aux femmes, en fait. C'est ça qu'elle veut dire.
Oui, je sais que c'est ça qu'elle veut dire, mais je suis pas sûre de comprendre, parce qu'après, je lisais après pour voir si elle précisait, mais je suis pas convaincue que ce soit le cas. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un cas précis comme Aguirre, donc c'est un homme, beaucoup de commentaires du film le présentent comme quelqu'un qui effectivement présente des sérieux troubles de la personnalité, et moi dans l'annonce j'ai dit je trouve pas pire que les autres conquistadors, d'accord, c'est vrai que c'est Kinski en plus avec la tronche qu'il a, et puis qui fait beaucoup de... comment dire, c'est vrai qu'il est assez spectaculaire, on va dire, mais est-ce que c'est pas lié à l'émotion? C'est pas quelqu'un qui est dépourvu d'émotions non plus. Et est-ce que effectivement, quand on diagnostique une femme comme folle, est-ce que c'est plus lié à l'émotion? Je suis pas sûre du tout. Donc moi, je comprends mieux quand on me donne des exemples. Et là, je vois pas exactement à quoi ils font référence en disant que c'est pas lié aux émotions pour les hommes et que ça l'est pour les femmes. Ils précisent pas des exemples. Et moi, quand il y a pas d'exemple, j'y comprends rien.
Donc voilà, le groupe uniquement constitué de troubles plus fréquemment attribués à des hommes manque de toute référence à l'émotivité, alors que les deux autres se focalisent sur les émotions, les étiquetant comme problématiques. Tandis que les schémas de la masculinité hégémonique découragent les hommes d'exprimer leurs émotions, les femmes sont associées à l'émotivité, et ici elles sont pathologisées pour en avoir trop exprimé.
Ça dépend ce qu'ils appellent émotion. Je reviens à Aguirre. On peut pas dire que Aguirre est dépourvu d'émotion. Il exprime que ça tout le temps, tu vois. Et d'autres, personnages comme ça, considérés comme étant fous, effectivement, se laissent déborder par des émotions aussi, tu vois. Et je sais pas, je pense à mettons Caligula dans le film Caligula, puisqu'on voit Malcolm McDowell, dans Orange Mécanique, on peut pas dire qu'il a pas d'émotion. C'est pas vrai, si tu veux. C'est pas les mêmes émotions, mais c'est des émotions. C'est pas et c'est pas mal considéré. Je veux dire, il y a des gens qui considèrent comme positif le fait d'avoir une forte personnalité, tu vois, et d'exprimer, par exemple, un acteur qui va un petit peu aussi surjouer dans la vie, mais ça va être effectivement, il va tout surjouer, tout est très intense, quand il aime, j'en sais rien, le personnage de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, qui hurle son amour sous la pluie, en petit polo pour montrer ce qu'il a de bien. Bon, non, mais je veux dire, c'est vrai que, et c'est pas considéré comme féminin de se comporter comme Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. Enfin, tu vois, je veux dire, même quand tu vois les tout un tas de personnages comme ça masculins ayant une entre guillemets forte personnalité, moi je trouve qu'ils sont pas dépourvus d'émotions. C'est pas forcément les mêmes que les femmes, d'ailleurs c'est même sûr. Je veux dire une femme qui se comporterait, enfin qui va se mettre à crier je t'aime sous la pluie, c'est quelque chose qui va être considéré, elle est pas considérée. On n'attend pas d'une femme qu'elle exprime son amour de façon aussi spectaculaire, on va dire, peut-être. Mais j'en suis même pas sûre. Donc, si tu veux, cette phrase-là, je vois pas à quoi précisément, à quel comportement précisément ça fait référence. Voilà.
Oui. Par rapport à ça, je pensais que l'auteur de ce texte pense comme toi, en fait.
Ah oui.
En fait, mais qu'elle se désole que de ce que, justement, dans le milieu médical, les choses soient rangées de cette façon-là. En fait, c'était ça.
D'accord. C'est-à-dire qu'elle pense que les psychiatres, un homme n'est pas censé avoir d'émotions, et une femme, oui. C'est ce qu'elle pense, d'accord.
Que pour les psychiatres, c'est
oui, voilà, c'est ça. Qu'un homme, moins il a d'émotions, mieux c'est. Et qu'une femme, plus elle en a, mieux c'est.
Oui.
que c'est une caractéristique féminine d'être hypersensible, de pleurer en regardant Bambi, enfin tu vois, des trucs comme ça.
Et que en même temps c'est pas bien en fait.
De toute façon, c'est oui.
Bon, bref. Une analyse des critères pour les trois troubles de la personnalité démontre qu'ils constituent un spectre de comportement féminin acceptable et culturellement prescrit. Par exemple, une femme ne doit pas être trop dépendante d'un compagnon masculin, puisque cela est décrit comme un comportement caractéristique du trouble. Mais elle ne doit pas non plus s'adonner à des relations trop sérieuses, non sérieuses, un critère listé à la fois pour le TPH et le TPB, une norme, un standard socialement partagé concernant une conduite culturellement appropriée et désirable, est défini. Une femme devrait s'installer avec un partenaire monogame, mais ne devrait pas trop compter sur lui. Dans la société en général, les femmes et les filles sont pénalisées à la fois pour s'être conformées aux normes et avoir échoué à se conformer aux normes qui relèvent du comportement féminin approprié. Cette situation paradoxale constitue une double contrainte. Une situation dans laquelle quelqu'un reçoit des messages contradictoires, et cela diffère d'une situation dite doublement perdante pour deux raisons. Un, l'individu affecté est largement inconscient de son existence. Et deux, elle jaillit d'une personne ou d'une institution que l'individu respecte ou en laquelle il a confiance. Toutes les femmes dans notre société sont confrontées à une double contrainte. Elles peuvent soit se conformer à la conduite féminine adéquate, entre guillemets, renforçant leur subordination et leur impuissance, ou bien elles peuvent se rebeller en adoptant des traits supposément masculins, comme l'indépendance, et à leur faire face au châtiment et à l'aliénation. Les deux choix peuvent conduire à un diagnostic psychiatrique, et plus une conduite est extrême, quelle qu'en soit la direction, plus grande est la probabilité qu'elle soit sanctionnée.
Si je résume, il veut dire que dès que tu sors de l'ombre, quoi que tu fasses, de toute manière, t'es folle.
En gros, voilà. Donc là, j'en suis à la fin du, okay. du passage qu'on voulait lire.
Voilà. Ben, je sais pas, toi, tu... Moi, je me dis, on pourrait faire deux émissions, parce que c'est quand même... Le thème, quand même, de la folie d'un point de vue de sexiste, quoi. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'important.
Oui.
Si tu veux, c'est vrai que... je pense que même toi, en tant qu'homme, c'est quelque chose que tu as dû souvent constater. Ayant été en contact souvent avec des femmes qui, justement, ne correspondaient pas aux critères conseillés de comportement. Ben, en particulier, je sais pas, même, excuse-moi, mais quand je vois ta copine qui n'est pas vraiment le modèle de la femme soumise, passive et tout, on se retrouve facilement avec confrontée. Et c'est très bizarre d'ailleurs, parce que souvent c'est très déstabilisant. Tu vois que tu as des réactions d'hostilité de la part d'hommes. Bah, y compris, par exemple, moi, ça m'a beaucoup surpris dans les milieux punk, par exemple, qui vraiment ont des réactions très violentes à l'idée qu'on puisse... Alors, c'est assez aussi, effectivement, une double contrainte. L'idée que tu puisses te plaindre de... Enfin, qu'on puisse dire qu'ils ont des privilèges, alors qu'ils n'ont pas du tout l'impression. Et qu'ils ont l'impression, face aux femmes, au contraire, que c'est elles qui ont le pouvoir. Et t'as pas idée du nombre de fois où j'étais confrontée à des réactions comme ça, de la part de militants, ou par exemple de squatteurs, de punks, etc. C'est ce dont se plaignaient en effet les femmes dans le squat, le transfo. Que premièrement, bah, il y avait la question des agressions sexuelles, qui malheureusement, bah, on voit pas trop bien qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter ça. Mais le truc surprenant, c'est que si jamais t'essayes d'expliquer que tu le vis pas bien, que tu as l'impression quand même que par exemple, je l'ai constaté aussi dans des débats, les hommes, par exemple, laissent pas les femmes, enfin, ils viennent à un débat sur le sexisme et ils essayent de prendre tout l'espace. Et si jamais tu le leur dis, mais ils deviennent dingues, hein, vraiment, pour le coup, enfin, au sens évidemment figuré, mais ils deviennent très très agressifs. Et ils accusent les femmes de premièrement de d'être des pleureuses, de que c'est pas vrai, que il y a pas de, y a, à une époque peut-être, mais maintenant non, et que pas du tout, et que d'abord c'est le contraire, c'est les hommes qui seraient des victimes, des femmes qui seraient manipulatrices. Ben, je te parlais de l'histoire de Bertrand Cantat. Il y a eu des réactions très diverses, on va dire, hein, par rapport à cette histoire-là. Et vraiment, c'est un truc qui est compliqué, parce que comment tu peux faire pour te faire prendre au sérieux? Je veux dire, si jamais les hommes veulent... Enfin, il y a des hommes qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais même pas. Tu peux pas. Comment tu peux démontrer que tu n'es pas manipulatrice, par exemple? Comment tu peux démontrer que non, t'as pas du tout, t'es pas du tout privilégié, que comment tu peux, enfin, j'ai vraiment été confrontée très très souvent à impossible de communiquer, quoi, quasiment. Et j'avais l'impression que il y avait deux problèmes pour les hommes. Premièrement, quand ils ont vécu des relations de couple où ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, de pas être celui qui domine, quoi. Et à tort ou à raison, hein. Mais ils en faisaient un diagnostic général. Enfin, tu vois, de dire c'est les femmes qui en réalité dominent par rapport aux hommes. Mais aussi le fait que les femmes ne veulent pas suffisamment coucher avec eux, quoi, si tu veux. Et ça, t'as pas idée du nombre de fois où j'ai vu un truc comme ça. On avait fait un débat où il y a un homme qu'on a quand même sorti par la peau du cou et qui a dit que c'était normal qu'on viole les militantes, elles se laissent pas faire. Enfin, sérieux, hein, mais au premier degré et tout, tu vois. Enfin, bref. Donc, si tu veux, tu te dis, ben, évidemment, toi, tu vas un peu t'énerver. Ah, tu vois, je l'avais bien dit, tu t'énerves pour un rien. Enfin, voilà.
Je pense que ce que dénonce l'auteur aussi par rapport à l'institution médicale, c'est que elle fait cette institution fait une crée un certain monde dans lequel les hommes doivent absolument dominer les femmes, en fait, et les femmes doivent être dominées par les hommes.
Ben oui, puis on comprend facilement pourquoi, c'est que ça les arrange bien.
Un truc construit, entretenu, et qui va conforter les hommes à continuer à dominer, exercer un pouvoir, enfin, conférer plus de pouvoir aux hommes qu'aux femmes.
Bah, si tu veux, je me dis, en plus, il n'y a même pas de diagnostic psy à avoir sur cet état de fait qui est réel. C'est comme dit la chanson de Petra Piedbiche. Pourquoi est-ce qu'ils violent? Parce que j'en avais envie, je me suis servie. Les corvées, pourquoi c'est les mieux que ce soit les femmes qui les fassent? Ben parce que ça m'arrange. Et je veux dire, hein, d'une manière générale, s'il y a eu des esclaves dans l'Antiquité, si les hommes qui n'ont pas les moyens d'avoir des serviteurs ou des esclaves préfèrent que ce soit la femme qui fasse la vaisselle, il n'y a pas besoin de se creuser beaucoup et de chercher des diagnostics psy pour comprendre pourquoi. Ça les arrange bien. Quant au fait de dire quand j'ai envie, t'écartes les cuisses, t'as pas non plus à beaucoup. Enfin, c'est comme pour la chanson de Petra Piedbiche, hein. Tu dis c'est facile à comprendre, et quand les femmes refusent, ça les arrange pas. Enfin, tu vois, donc en effet, c'est au-delà des constructions sociales, etc. C'est un état de fait qui peut être que universel et intemporel, que tu vois. Enfin, je veux dire, que tu te dises que les choses, ça va être comme ça. L'idée que tu veux pas que la femme ait trop une sexualité trop forte, c'est aussi parce que après tu sauras pas de qui est ton, pour qui c'est important la paternité. Bah, c'est vrai, tu vois. Tu dis, si ça se trouve c'est le facteur, c'est
oui,
le
oui, d'accord, oui.
Enfin, tu vois, je veux dire, non, mais et c'est quand même quelque chose d'assez universel d'intemporel, de pas vouloir que les femmes toi, tu peux être polygame, mais attends, le contraire, faut pas déconner, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi, tu vois, il y a des bonnes raisons à ça, mais le recours au diagnostic psy, c'est une question qui se pose d'ailleurs par rapport au pouvoir en général.
Ah oui, oui.
C'est que même dans Aguirre, on voit que Aguirre, bon, à un moment donné, il s'embarrasse plus d'apparence, mais c'est comme dans la fable du loup et de l'agneau. Pourquoi le loup cherche-t-il une légitimité ? Ça serait un vrai loup, évidemment, c'est symbolique, c'est une fable. Bien sûr. Normalement, t'as des chefs, ils sont en situation de simplement, ils pourraient se jeter sur l'agneau, ils le bouffent, on n'en parle plus. Mm-hmm. Ils pourraient commencer par là. Mais non, ils cherchent à se justifier. C'est ça le truc, c'est que ils cherchent, à travers tout ce qui est psy, tu cherches une légitimité au pouvoir. Plutôt que de dire simplement, tu sais, comme les barbares, je saute sur la femme, je la viole, on n'en parle plus. Tu vois, non, il faut que tu arrives à justifier que c'est normal comme ça, que tu devrais d'ailleurs être enchanté, et que si t'es pas enchanté, c'est que faut que tu te fasses soigner. Enfin, tu vois, d'une façon générale, quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu vas aller dans le domaine psy pour quelque part légitimer ta critique ou ta volonté de posséder ou de dominer, d'avoir le dessus sur quelqu'un. Ouais. Voilà.
Et l'épée de Damoclès de la psychiatrisation qui est au-dessus de la tête des femmes, en fait, renforce ce pouvoir des hommes et en fait, il y a une sorte de confort pour les hommes à en profiter le plus longtemps possible, si. Peut-être.
Tout à fait, oui, mais c'est un peu le...
Eh bien, ainsi se termine l'émission
pour
aujourd'hui.
Voilà, donc on pourra reprendre juste... peut-être la semaine prochaine, du coup.
Ben, avec plaisir, si rien ne nous en empêche. Et non, je vais juste faire une annonce, et puis...
Ok, donc vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et aussi sur Internet, sur par exemple anarchiste.info. On a mis toutes les émissions de l'entonnoir, tu sais, sur anarchiste.info.
Oui. Eh bien, alors, juste... Oui, parce que c'est le 19 septembre. Ça se passe pas à Paris. Salut, on organise un événement le samedi 19 septembre à la dérive Montmenou, Plouégat-Guérand, en soutien à l'ACAS, Caisse de Soins et de Santé. L'atelier du Thunomètre de 14h à 17h sur inscription, 30 personnes. Ah oui, c'est le programme. Alors, le Thunomètre a été créé par deux personnes issues de milieux prol, c'est un outil à la fois d'autodéfense de classe et de politisation du prix libre. Le Thunomètre a été créé dans la perspective de faire contribuer chacun et chacune selon sa classe sociale et ses capacités économiques. Bien trop souvent, on a établi une échelle uniquement en fonction du revenu, mais le patrimoine, et notamment le patrimoine économique hérité, n'est habituellement pas pris en compte. Cette formation peut avoir pour but de revoir les bases sur les notions de classe sociale prolétaire, bourgeoise, moyenne, le capital économique, culturel, etc. Aborder les enjeux de pouvoir liés aux classes sociales dans les milieux de gauche, associatifs, militants, queer. Aborder ce qu'impliquent les différences de classe et de situation matérielle concrète quand on est un groupe, collectif, une bande ou autre, et qu'on veut faire des trucs ensemble. Repolitiser tout ça par de la discussion, du partage du vécu et surtout les perspectives pour les premiers concernés. L'atelier sera payant en fonction de vos résultats au Thunomètre. Alors oui, c'est-à-dire que la CAS, c'est donc la caisse de soins et de santé, c'est une caisse autonome pour les gens qui en ont besoin soient soignés correctement.
Donc c'est où ?
Alors c'est en Bretagne, vers Plouégat-Guérand. Ouais, je ne les connais pas.
Et où est-ce qu'on peut trouver cette annonce si des gens veulent la retrouver pour avoir tous les détails ?
Alors, c'est un événement qui a lieu... Alors,
C'est peut-être sur Indymedia, non ?
Voilà.
Non ?
Samedi 19 septembre, à la dérive. Alors, il y aura des concerts. C'est en soutien à la Caisse du Soin. Il y aura à 20h un repas vegan avec des lasagnes de courgettes du jardin. Vrang, punk... Aceite corps psychodélico. Lipus. Alors, il y a Ristretto, il y a Pont-Menou. Voilà, donc c'est des groupes qui vont jouer aussi. Et donc, c'est pour soutenir cette caisse, oui.
On doit trouver. Je suppose qu'on trouve l'annonce sur Indie Media Nantes. C'est un site qui est un peu comme sur Paris Lutte, quoi. Ouais. Répertorie tout ce qui peut se passer en Bretagne.
Voilà, donc c'est à Pont-Menou, M-E-N-O-U, entre parenthèses, Plouégat-Guéran. Et c'est le samedi 19 septembre, à La Dérive. Voilà. Eh bien, au revoir et à la semaine prochaine. Et on va enchaîner avec Un rayon de soleil, émission de Radio Libertaire Méditerranée, animée par Fabrice.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Ouzénus, oh, tu casses-tu.